Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau.
Cube Radio. Cube Radio.
Alors, bon mardi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a reçu sa deuxième dose de vaccin? Qui a eu ses deux doses? Je veux dire, qui est vraiment, là, qui est super protégé. Connaissez-vous quelqu'un autour de vous? Eh bien, aux États-Unis, il y a R. Kelly. Je connais pas, c'est un chanteur. R. Kelly, c'est un rappeur, je sais pas, je le connais pas, qui a reçu sa deuxième dose. Il est tout content, lui, 63, il n'a pas 63 ans, non, je sais pas exactement quel âge il a. Mais il a reçu sa deuxième dose et il est en prison. Ce gars-là, il est en prison en attente d'un procès pour pornographie infantile. Ouais, le gars, pornographie infantile, il est en prison. Lui, il a reçu ses deux doses. Et ses avocats disent qu'ils sont super contents parce qu'ils étaient très inquiets à cause de la pandémie en prison. Ils étaient très inquiets pour R. Kelly, un pédophile. Alors, il a reçu ses deux doses, c'est le fun. Par contre, les gens à l'extérieur de la prison attendent encore, ils n'ont pas leurs deux doses. Mais R. Kelly, lui, est protégé. Super content. Avez-vous vu les jewels? $1 million de jewels qui ont été volés à Outremont, je le dis, c'est absolument dégueulasse. C'est des vols comme ça, mais je regardais les bijoux. On dirait les bijoux de la Castafiore. C'est Maud et Jean-François qui me disaient ça, on dirait des bijoux de la Castafiore, vraiment. Et je me disais, il y a quelqu'un qui met $1 million sur des jewels? Je dis pas, là, c'est correct qu'ils ont été volés, là, absolument pas, mais tu sais, avoir $1 million, moi, il me semble que je mettrais pas ça. D'ailleurs, ils sont pas très beaux. Je mettrais pas ça sur une bague, puis je sais pas, un collier ou des... touche pas à mes perles! Mes perles! je ne comprends pas cette affaire-là. Mais bref, ils sont pas très beaux, c'est ça. $1 million, tu mets ça sur toi. C'est quoi quand on va manger avec la reine? Ben, porte ça, c'est pas le genre là, de bijoux que tu mets là, pour aller au Costco, là. Pour aller magasiner au Costco. Mais bref, elle avait des bijoux $1 million. Il y a un texte de Gazette sur les menaces, les intimidations, le harcèlement en ligne, les gens qui envoient des menaces de mort, des insultes et tout ça. Et il y a Émilie Nicolas, qui est maintenant chroniqueuse, on sait qu'elle est chroniqueuse au Devoir, mais elle est chroniqueuse aussi à de Gazette, qui est interviewée, puis elle dit c'est surtout les femmes et les gens racisés qui reçoivent des menaces. Ben oui. Les hommes blancs ne reçoivent pas. T'sais. Moi, je reçois aucune menace, t'sais, absolument pas, aucune rien. Joseph Facal n'en reçoit pas, Mathieu Bocoté, il n'en reçoit pas, pantoute. C'est surtout des femmes racisées qui reçoivent ça. Et ma consœur, José Legault, que j'aime bien, que je salue, mais on peut se critiquer entre confrères et collègues, elle dit « Danny Turcotte sonne l'alarme aujourd'hui dans sa chronique ». Et là, parce que Danny Turcotte, on le sait, a reçu des menaces, comme si on savait pas. Comme si c'était le premier là, à dire, là, hey, attention, là, sur les médias sociaux, ça y va un peu fort. Vous êtes un peu éveillé sur les menaces. Comme on le savait pas, là, nous autres, on dormait, tout à coup, Danny Turcotte est arrivé, il sonne l'alarme. Là, soudainement, Danny Turcotte est menacé et insulté. Et là, attention, faut prendre ça au sérieux. Et ça me fait encore... C'est tout le temps la même affaire. Quand quelque chose arrive à des gens de gauche, oh, c'est crissement important. Mais quand ça arrive à des gens de droite, on s'en fout. Mathieu Bocoté, censuré à l'université, il l'a cherché. Hein, il défend des positions controversées. Il l'a cherché, qui est censuré. Mais là, soudainement, si c'est quelqu'un de gauche qui est censuré, attends une minute, là, wow! Hein? Mettons, si c'est une prof d'université, l'Université d'Ottawa, là, qui a utilisé le mot en haine pour parler d'un livre. Elle, c'est une femme, là, c'était très à gauche, c'est une militante. Attends une minute, là, c'est important. Là, attention, c'est important. Hein? Mais quand c'est quelqu'un un peu plus à droite, on s'en fout, ça n'existe pas. C'est tout le temps la même rengaine. Alors, parlant d'antiracisme débile, Amanda Gorman, vous la connaissez, c'est cette jeune poétesse de 22 ans, afro-américaine, qui est devenue célèbre du jour au lendemain. Lorsqu'elle était à l'investiture de Joe Biden, puis elle a récité un poème. Et là, ses poèmes, ses recueils, son recueil de poèmes se vend partout à travers le monde. Et là, il y a une traductrice aux Pays-Bas qui devait traduire le recueil d'Amanda Gorman et finalement elle a laissé tomber parce qu'il y a eu une grosse controverse parce qu'elle est blanche. Et là, ça a l'air que c'est seulement des Noirs qui peuvent traduire des textes de Noirs. Parce qu'eux autres comprennent qu'est-ce que les Noirs veulent dire, alors qu'un Blanc comprend pas. On est rendu là, là. On est rendu là, mais attendez une minute, là. Amanda Gorman, c'est une femme. Est-ce qu'un homme noir pourrait traduire Amanda Gorman? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il ne peut pas comprendre ce qu'une femme vit. Est-ce qu'une femme noire de 50 ans pourrait traduire Amanda Gorman qui en a 22? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Elle ne peut pas comprendre ce que la jeunesse vit. Donc, pour traduire une poétesse noire de 22 ans, ça prend une traductrice noire de 22 ans. On est rendu là, là. Ça, c'est de la maladie mentale. Ça, c'est l'asile. C'est direct, là, à l'asile. Appelez l'ambulance, camisole de force. On est rendu là. Moi, ma génération, ce qu'on tentait de faire, c'est de détruire les murs. On était contre les ghettos. Maintenant, la jeune génération antiraciste, sinon ça prend un noir pour traduire un... C'est-tu assez niaiseux? Savez-vous, dans l'histoire de l'humanité, le nombre de... Ça a-tu pris un grec pour traduire Homère? Hello! Toni Morrison, elle est traduite dans le monde entier. Danny Laferrière est traduit. Pensez-vous qu'ils ont dit, non, ça prend un noir, sinon vous pouvez pas comprendre? Tabouère! Impossible de s'extirper. Hein, Spike Lee qui disait, ça prend un noir pour tourner un film sur Malcolm X. Ça appartient au noir. C'est ça, cette niaiserie-là. Un noir peut faire un film sur Gandhi. Là, ça prend des Japonais pour faire des sushis. Ça prend des Italiens pour faire des pastas. C'est complètement débile. Est-ce que ça prend un gay pour traduire un gay? J'imagine. Ça prend un gay pour... On est rendu là. Chacun dans son petit coin. Et c'est l'antiracisme est fou, là. C'est craqué, là. Pensez-y deux minutes. Ça tient pas debout deux secondes. Et attends une minute, là. Le gars qui imprime le livre. OK, j'imagine que c'est, il faut qu'il soit noir aussi. On n'est pas pour faire imprimer le livre d'une poétesse noire par un blanc. Voyons, pourquoi on donnerait ce contrat-là à un blanc? Hey, c'est toi qui vas avoir le contrat d'imprimer le livre d'un noir. Ben non. Faut que ça soit un noir. Puis attends une minute, là. Dans une librairie, là, son livre, quand il va se ramasser en librairie, j'espère que c'est un libraire noir, parce que si c'est un libraire noir, il va connaître vraiment, là, il va comprendre ce qu'elle veut dire, Amanda Gorman, puis tu sais, il va le vendre, son livre, là. Il va le mettre dans la vitrine, tout ça. Tandis qu'un libraire blanc, ben, il comprendra pas, là. C'est quoi, cette affaire-là? C'est bien écrit bizarre, c'est une noire qui écrit ça. T'as point! J'ai vu des films, moi, des fois, c'est des films, c'était rien que des histoires de noir. Attends une minute, c'est Moonlight. Moonlight, qui avait gagné l'Oscar. OK? L'histoire d'un noir gay. Tu peux pas avoir plus loin que moi, là. J'étais un blanc straight. L'histoire d'un noir gay qui se fait intimider, qui se fait écœurer, je pleurais en regardant le film. Je pleurais. Je m'identifiais à lui. Je m'identifiais à ce personnage-là. Lui, c'était moi. Moi, j'étais lui. Je pouvais comprendre ce qu'il vivait. C'est impossible maintenant, aujourd'hui. Non. Non. C'est impossible, ça. Si je suis blanc, je peux pas comprendre qu'est-ce qu'un noir gay qui vit dans un ghetto vit. Parce que moi, je suis un blanc hétéro d'Outremont. C'est fou, là. Ces gens-là, le mouvement woke, c'est un mouvement de malades mentaux. Et ce qui est le plus beau dans le monde, c'est de s'extirper de soi. Éducation, vous savez ce que ça veut dire? Éduquer, ça veut dire extirper quelqu'un. C'est comme déraciner quelqu'un. De t'enlever de ton époque, de te transposer dans une autre époque, dans une autre culture. C'est ça, éduquer. On te fait lire Homère, tu te retrouves soudainement en Grèce antique. Et voilà, c'est tu t'extirpes de ta condition, mais là, non. Il faut tout ramener à soi. Ah, moi, je m'identifie pas à ce film-là. Il y a pas de blanc, il y a rien que des noirs, je sais pas. Ou il y a rien que des blancs, c'est pas... Je regardais quand j'étais jeune, Bill Cosby. Le sitcom de Bill Cosby. Cosby, qui est maintenant en prison parce qu'on a découvert que c'était un violeur en série. Mais bon, à l'époque, il passait pour un bon gars, un bon papa. Et c'était l'histoire d'une famille. Et c'était toutes les relations dans une famille. Puis c'était super cute, c'était très le fun. Je regardais ça, j'étais jeune, Bill Cosby, c'est une famille noire. Puis moi, je demeurais à Verdun, puis je me reconnaissais là-dedans. Puis ça me faisait rire, il me faisait penser à mon père. Puis ça m'a s'extirper. Je veux dire, pas être collé sur son expérience. Mais ça, c'est des gens, là, ce que je vis, là, c'est tellement important, là, qu'il n'y a personne d'autre qui peut le comprendre. Il n'y a rien que quelqu'un de ma race et de mon âge et de ma condition sociale qui peut me comprendre parce que, vous savez, ce que je vis, c'est tellement unique, c'est tellement distinct, là, c'est tellement particulier que personne d'autre peut me comprendre. Petit lapin. Des petits lapins. Ils sont tous dans leurs émotions, là. Puis tu peux pas me comprendre, papa, parce que je suis jeune, puis tu peux pas me comprendre. Ben oui, on peut comprendre la souffrance des autres. Ben oui, on peut se transposer chez les autres. Toute la culture, c'est ça. C'est le mélange. My God! C'est petite génération de débiles. C'est vraiment ça. Vous écoutez Martineau.